C'est le moment qui devient une tradition puis qui est bien attendu de rencontrer notaire Marie-Josée Saint-Laurent pour parler, pour continuer, en le fond, de parler d'un thème qu'on a abordé la semaine dernière sur les testaments. Mais là, il faut régler le testament.
Oui,
on est rendu là.
Effectivement, on est maintenant rendu à l'étape où, malheureusement, la personne est décédée et on doit régler sa succession.
Ça soulève des questions, Marie-Josée.
Oui,
ça.
Beaucoup de questions. On va tenter de vulgariser tout ça.
Oui.
Alors, premièrement, quand une personne décède, il faut voir si la personne a fait un testament parce qu'il faut aller chercher ses dernières volontés.
S'il n'y en a pas.
S'il n'y en a pas. Mais avant ça, je veux dire une chose. Moi, je dis toujours à mes clients de mettre leur testament, leurs assurances-vie, leur compte en banque, toutes les informations que le liquidateur aura besoin d'avoir au décès dans le même tiroir.
Okay.
Et je leur dis, faites l'exercice en arrivant chez vous. Imaginez-vous que vous êtes décédé et que c'est votre liquidateur qui rentre chez vous où il va aller instinctivement chercher dans vos papiers. On a toujours un tiroir qu'on n'ouvre jamais et dans lequel il y a tout.
Ouais.
Alors, voilà. Donc, le conseil, c'est vraiment de garder dans le même tiroir tous les documents dont on aura besoin lors du décès. Entre autres, les assurances-vie, c'est très important parce que les assurances-vie, on n'a pas vraiment de façon de les récupérer, de les retrouver. Alors, il faut garder les polices d'assurance-vie dans le tiroir avec le testament et de grâce, jeter les documents qui ne sont plus bons.
Okay.
Parce qu'un liquidateur, sa hantise, c'est de trouver des documents et de penser qu'il pourrait avoir de l'argent quelque part, puis là, on fait des recherches, puis on dépense de l'argent, du temps et de l'énergie pour finalement arriver au bout de la ligne où il y a zéro scène là. Donc, on garde nos informations à jour.
Est-ce qu'il y a lieu de le dire à quelqu'un, mais ces trucs-là, c'est à telle place, là?
Et voilà. L'autre conseil, c'est de dire au liquidateur remplaçant, parce que souvent, c'est le couple qui se nomme l'un l'autre, si le couple part en même temps, de dire au liquidateur remplaçant, c'est toi qui seras en charge de mes affaires s'il nous arrivait quelque chose. Et dans le tel tiroir, voilà, nos affaires sont toutes là.
OK.
Donc, ça, c'était un premier conseil. Donc, dans le règlement d'une succession, on recherche les volontés. Effectivement, si la personne n'en a pas, bien, il y a la loi qui s'applique. Oui, mais l'affaire là-dedans, c'est que pour savoir si la personne a un testament ou pas, et savoir si on a le bon dans les mains, si on en a un entre les mains, savoir si c'est le dernier qui a été fait, il faut nécessairement faire une recherche testamentaire au registre de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec.
Ouais, ça, c'est un notaire qui fait ça?
Bien, la plupart du temps, c'est un notaire.
Okay.
Les gens peuvent s'aventurer eux-mêmes à faire ce genre de recherche-là, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux de le faire soi-même, mais il y en a qui le font.
Ah oui?
Oui, mais ils auront besoin du notaire à un moment donné pour le transfert des comptes en banque, pour les transferts des immeubles. Et donc, voilà. Alors, du moment où on a, admettons qu'on a un testament en main et on a fait faire la recherche testamentaire et on a donc le testament et le liquidateur, parce qu'il y a toujours un liquidateur qui doit être nommé, et dans le testament, normalement, c'est là. Alors, le liquidateur, c'est lui qui est en fonction et c'est lui qui va chez le notaire, on fait la recherche testamentaire et suite à ça, il faut qu'il trouve les actifs et le passif de la personne décédée.
Marie-Josée, avant qu'on aille plus loin, juste pour pas que je l'oublie, tu dis il faut avoir ces trucs dans un tiroir quelque part.
Oui.
Est-ce que j'ai pas déjà entendu des gens dire c'est tout chez mon notaire?
Bien, effectivement, nous, on garde toujours les originaux.
OK.
On garde toujours les originaux, mais on donne une copie certifiée conforme au client pour que, justement, entre autres, au niveau des funérailles, parce que les funérailles, souvent, on veut savoir qu'est-ce que la personne veut comme funérailles. C'est dans le testament qu'on va voir ça.
Oui, oui.
Donc, c'est pour ça que c'est important de garder les informations à jour, parce que si on fait les funérailles en fonction d'un vieux testament, puis finalement, il y en avait un nouveau, puis que là, on l'a fait incinérer, mais finalement, la personne ne voulait plus être incinérée, on a comme un problème.
On a comme un petit problème, là.
C'est ça.
Bon,
donc,
OK.
Garder les informations à jour.
Oui.
Alors, on se retrouve à être liquidateur d'une succession.
Oui.
Donc, la job du liquidateur, c'est de rapatrier l'actif, donc tous les biens de la personne décédée, de rapatrier aussi le passif, parce qu'il faut payer nécessairement ce que la personne devait de son vivant et aussi les dettes reliées à la succession. Et ensuite, on partage l'actif restant selon ce qui est écrit dans le testament.
Okay.
Quand on a un testament, le liquidateur a les pleins pouvoirs. contrairement à quand on n'a pas de testament.
À savoir.
Ça veut dire que si un liquidateur, on a un testament, le liquidateur a été nommé, lui, exemple, le liquidateur, s'il n'y a pas assez d'argent liquide dans la succession, il devra vendre des biens. Il n'y a pas besoin d'autorisation de vendre les biens si on a un testament, parce que dans le testament, on dit que le liquidateur a les pleins pouvoirs. On appelle ça la pleine administration.
Okay.
Alors que si on n'a pas de testament, le liquidateur doit se faire autoriser par tous les héritiers pour être capable de vendre un immeuble. Parce que ça arrive des fois dans les successions où on n'a pas assez d'argent liquide et on se doit de vendre des biens pour régler les dettes de la personne décédée. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que le choix du notaire pour le règlement d'une succession, ça n'a pas besoin d'être le notaire qui a fait le testament.
Ah!
OK? Oui, pour récupérer une copie, si jamais on n'en a pas, mm-hmm. On doit faire appel au notaire qui est cessionnaire du greffe où le testament se trouve.
Oui.
Mais on peut faire affaire avec notre propre notaire. Le liquidateur, il peut choisir son
notaire
pour régler la succession.
Okay.
Alors ça, c'est souvent une fausse croyance de penser qu'on doit nécessairement retourner.
On est obligé d'aller là.
Exactement. L'autre chose, c'est aussi le choix de l'institution financière, parce que le liquidateur devra aller à l'institution financière où la personne décédée avait son argent, et on signe les formulaires, donc le notaire prépare les formulaires, on appelle ça une déclaration de transmission.
Mm-hmm.
On se doit d'aller récupérer les sous de la personne décédée et ouvrir mm-hmm. un compte au nom de la succession.
OK.
Le compte de la succession
oui.
peut être ouvert dans n'importe quelle institution financière. Donc, si le liquidateur, lui, fait affaire avec une banque ou une caisse, peu importe,
oui.
et que le défunt, lui, son argent était ailleurs, bien, il n'y a pas besoin de l'ouvrir dans le ailleurs. Il
okay.
peut prendre l'argent de la personne décédée et ouvrir un compte dans sa propre institution où lui a ses propres affaires.
Quand le notaire a signé le truc, là.
La déclaration de transmission.
Déclaration
exactement.
De transmission.
Le liquidateur doit rapatrier l'actif et le passif pour la simple et bonne raison qu'il devra montrer aux héritiers à quoi ça ressemble. C'est quoi le portrait de la succession? Parce que ça arrive qu'il y a des successions qui sont déficitaires.
Oh.
Donc, qu'il y a plus de passifs que d'actifs.
Mm-hmm.
Et là, le liquidateur se doit de demander aux héritiers qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Parce que si on veut renoncer, on a 6 mois à compter de la date du décès pour renoncer à une succession.
Ouais.
Après, il est trop tard.
Oh oh.
Donc, c'est important.
Oui, oui, oui.
Hein? Et s'il est trop tard, bien, on accepte les dettes et les actifs. Et quand on renonce à une succession, c'est important, la renonciation se fait par un acte notarié.
Oui.
Elle se doit d'être dans un acte notarié. Et dans ça, on fait déclarer aux héritiers qui n'ont pas fait d'acte d'héritier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté quelque chose.
OK.
OK? Quand on renonce à tout.
OK.
Donc, on ne peut pas prendre le frigidaire, puis les bijoux, puis dire « Ah non, je renonce à tout le reste. »
Les autres affaires, je ne vais rien savoir.
On renonce à tout.
OK.
Donc ça, c'est des décisions qui sont déchirantes.
Ouais.
Mais admettons que la succession, il y a 80 000 $ de dette, puis qu'il y a quelques bijoux et quelques petits trucs à valeur sentimentale qui sont là, mais on se doit de laisser tomber ça.
Ah oui?
Sinon, on va devoir payer la dette de 80 000 $.
Oh! Mais si on ne la paye pas, si on renonce, faisons-nous un exemple vite, là.
Oui.
Il y a un décès, il y a 4 héritiers, là, puis les 4, ils décident, ils renoncent.
Bien,
qu'est-ce qui arrive avec ça?
Bien, la renonciation, elle est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers. Elle est opposable aux tiers. C'est-à-dire qu'elle est opposable à tous, y compris les créanciers de la personne décédée.
OK.
Donc, les créanciers devront prendre la décision s'ils vont plus loin. Donc, là, ils vont rechercher les autres héritiers potentiels et d'essayer de se faire réclamer, de réclamer leur créance, en fait, chez ces gens-là.
Chez d'autres, OK.
Chez d'autres héritiers potentiels, soit par le testament ou parce que des fois, on nomme des gens, puis si les gens renoncent, bien, on nomme d'autres personnes.
Okay.
Ou si ça vient qu'il n'y a plus de personnes dans le testament de nommer, ou on n'a carrément pas de testament, bien, on y va mm-hmm. avec la dévolution légale. Mm-hmm. Et c'est la loi qui détermine c'est qui les héritiers. Moi, j'ai réglé une succession où il y avait 105 héritiers, moitié aux États-Unis, moitié au Canada. Parce qu'il n'y avait pas de testament et tout le monde avait renoncé, les gens proches avaient renoncé. Là, on était rendu dans les neveux et nièces et c'était quelque chose.
L'enfer.
Ça arrive des fois.
Autre question. C'est un cas que je connais bien. Dans une famille, les héritiers décident. Je vais aller très, très, très concrètement. On voudrait que la maison aille à un des frères ou des sœurs, des héritiers,
oui.
et les autres y renoncent pour qu'elle reste dans la famille.
Ben,
c'est faisable?
Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Soit qu'on renonce à notre part de succession et qu'on dit... parce que là, on parle de la maison, mais on parle pas des autres biens, là, c'est ce que je comprends.
Ouais.
Ben, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que dans l'acte de partage, parce qu'une fois qu'on a tout payé le passif puis qu'on a l'actif restant, on regarde c'est quoi l'actif. Bon, il y a une maison, de l'argent en banque, des bijoux, etc.
Ouais.
Ben, s'il y en a un ou une des quatre qui veut garder la maison dans sa part, ben, on lui donne... c'est sa part de succession. Si, par contre, la maison vaut plus cher que ce qu'il devrait recevoir en valeur, il doit rembourser une somme d'argent aux autres pour que ça soit équitable. Si le testament a partagé en part égale entre quatre personnes, on va mettre des chiffres, 100 000 $ en valeur, mais que la maison en vaut 80 et qu'il y a 20 000 $ en argent, nécessairement, sa part devrait être à 20 000. Donc, il doit 60 000 en argent aux autres, aux trois autres héritiers pour que ça soit en part égale. Ça, c'est au niveau du partage qu'on le fait.
Oui.
Mais ça arrive des fois où on n'a pas de testament. C'est la maman et les enfants qui héritent, la mère pour un tiers, les enfants pour le deux tiers, et qu'on ne veut pas ça, finalement. Les enfants, ils disent non, on veut tout laisser à notre mère. Bien là, on les fait renoncer. Alors, ils renoncent en faveur de leur mère. Alors, la mère se retrouve seule héritière de la succession.
Je vois.
Alors, ça, c'est des choses qu'on fait.
Est-ce qu'il y a encore... parce que moi, j'ai encore une question.
Allez-y.
J'ai encore une question, à savoir, ça fait plusieurs fois que tu parles du liquidateur.
Oui.
Est-ce que cette personne-là... je suppose que... est-ce que la personne peut dire « Non, moi, je veux
absolument.
Pas, je veux bien savoir. »
On peut toujours renoncer à une charge de succession. On n'est pas obligé de faire cette job-là.
Oui, mais là, il arrive quoi?
Bien, normalement, on met des remplaçants.
Ah.
Alors, moi, dans les testaments que je fais, il y a au moins deux autres remplaçants.
Okay.
Justement, au cas où il y aurait un décès d'un des liquidateurs ou une renonciation, ou si un liquidateur est à l'extérieur du pays, il se doit de démissionner parce que sinon la succession pourrait être imposée et au Québec et au Canada et dans le pays de résidence du liquidateur. Donc, c'est des raisons pour lesquelles le liquidateur doit démissionner à ce moment-là ou renoncer à sa charge.
Ouais.
Donc, on n'est pas obligé d'accepter cette charge-là. D'où l'importance, lorsqu'on fait son testament, de demander aux gens s'ils vont vouloir être liquidateurs au moment du décès. Bien sûr, on ne sait pas quand le décès va arriver, mais on a déjà une bonne indication si les gens disent oui au départ pour être liquidateurs.
Okay.
Et quand il n'y a pas de testament, nécessairement, il faut faire un acte de nomination de liquidateur pour être capable d'avoir un représentant, parce que s'il y a 12 héritiers, on n'ira pas toute la gang chez le notaire et signer les 12 sur tous les documents.
Mais qui fait ça, la nomination, comme
c'est
tu
le
dis?
Notaire.
C'est le notaire.
C'est le notaire qui va demander aux héritiers lequel d'entre vous voudrait être liquidateur. Et là, normalement, il y en a un qui se fait... des fois, il n'y en a pas, mais il est souvent poussé de dire « OK, je vais y aller ». Donc, on en nomme un comme liquidateur. Et à ce moment-là, dans le même acte de nomination, les héritiers lui donnent tous les pouvoirs qui vont permettre au liquidateur d'agir.
Ouais.
Je parlais du compte bancaire tantôt. Il y a un autre document aussi qu'on se doit de faire lorsqu'on a une maison. Alors, lorsqu'on décède et qu'on a des immeubles, alors le transfert aux héritiers se doit d'être fait par acte notarié. Encore là, on appelle ça une déclaration de transmission immobilière.
Ouais.
Donc, c'est un document que le notaire prépare et dans lequel on dit, soit que l'immeuble va à un héritier parce qu'on l'a décidé dans le partage, ou si on le lègue à tous les héritiers ou à un héritier parce qu'il n'y en a rien qu'un.
Ouais.
Donc, c'est un document qu'on prépare et qui fait le transfert de la personne décédée à l'héritier.
D'accord.
Et on publie ça au registre foncier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les gens disent... La succession, c'est quoi? C'est comme une bulle irréelle, en fait, qui est pas tangible, mais qui fait le transfert entre le défunt et les héritiers. Et durant cette bulle-là, le liquidateur, c'est l'administrateur, en fait. Il administre tant et aussi longtemps qu'on ne partage pas, qu'on ne transfère pas à l'héritier les biens et les obligations aussi, parce qu'il y a des obligations qui peuvent se transférer.
Il nous reste quelques minutes et je veux revenir encore sur la question du liquidateur, mais dans le concret, tu sais, dans le quotidien, dans la cuisine, là, je sais, mettons, que je suis liquidateur de quelqu'un. Cette personne-là décède. Qu'est-ce que je fais, là? J'appelle le notaire.
Instinctivement, on appelle le notaire.
Oui,
instinctivement, je te dirais dans 98% des cas, les gens vont appeler le notaire.
Okay.
Le notaire va demander la preuve de décès parce que bon, c'est sûr que c'est le point de départ. Alors, preuve de décès du salon funéraire ou du directeur de l'état civil.
Ouais.
Du moment où on a la preuve de décès, on enclenche le processus de recherche testamentaire qui prend à peu près 2 semaines à recevoir.
Okay.
Et durant ce temps-là, on prépare les documents parallèles, donc la déclaration de transmission bancaire, la déclaration de transmission immobilière si on a des immeubles. Et lorsqu'on reçoit le résultat de la recherche testamentaire, on constate que c'est le dernier testament dont on est en possession souvent. Alors, c'est le dernier testament qui est fait. Ou coup de théâtre, on a un autre testament plus récent.
Ouais.
On fait appel au notaire qui l'a en sa possession. Il nous envoie une copie certifiée conforme. Et là, on voit qui est héritier.
Ouais.
Et donc, ça peut tout changer. Et ça, on n'y peut rien. Ce sont les volontés du défunt. Et on applique les volontés du défunt selon le document qu'on a entre les mains.
Quitte à déborder un tout petit peu, Marie-Josée, une dernière question là-dessus. Si je ne suis pas d'accord du tout, moi, avec les termes du testament, là, juste... Chambon Moses, moi.
On a le droit. J'ai eu droit à des crises dans mon bureau, oui,
mais
effectivement.
Après la crise, là.
Oui, bien, on n'a pas le choix. Moi, j'ai déjà réglé une succession qui s'est en allée à la maîtresse en totalité alors que l'épouse vivait encore et qu'elle croyait sincèrement que c'est elle qui héritait et que c'est finalement la maîtresse qui a hérité. Et on n'y peut rien.
On n'y peut rien.
On n'y peut absolument rien. Ce n'est pas contraire à l'ordre public. Une chose qui serait contraire à l'ordre public, ce serait d'avoir mis dans un testament on fait hériter, exemple, notre conjointe, et de dire si elle se remarie, elle n'a plus rien. Ça, c'est contraire à l'ordre public. Ça, on ne peut pas faire ça.
Okay.
Mais ça, c'est au moment où on fait notre testament, le notaire va le dire.
Okay.
Donc, voilà.
Alors, voilà. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Et je te disais avant qu'on entre en onde, j'ai déjà des commentaires de gens qui nous disent on a appris bien des choses.
Tant mieux.
Ben, tant mieux, on est là pour ça.
Absolument.
La prochaine fois, on se parle du mandat.
Oui, le mandat en cas d'inaptitude.
Merci, Marie-Josée.
Merci.
Bonne journée.
Merci.